Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, c'est Arthur Hinnerknecht. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, je me souviens pas trop. Mais depuis 2 ans et demi, c'est un nom qui revient souvent et de plus en plus fort. Il ne cesse de monter. Et quand on se penche sur sa personnalité, on comprend pourquoi. Il travaille, persuadé que les résultats ne seront que les conséquences de ses progrès et non une fin en soi. Il dégage énormément de confiance, de sérénité. Il s'adapte, quoi qu'il arrive. Une vraie chance d'enregistrer ce dernier épisode de l'année avec l'une des révélations de la saison. Je m'appelle Antoine Beneteau. Bienvenue dans Échange. Salut Arthur. Si j'avais envie de finir l'année avec toi, c'est que pour moi, tu as été le joueur français de l'année. Pour la simple raison que tu as commencé la saison 2021 à la 178e place mondiale et tu l'as fini à la 58e place mondiale. Quel est ton sentiment général déjà quand tu regardes ta saison?
Je pense qu'il y a une part de fierté, évidemment, un peu d'étonnement. C'est sûr que si au début de l'année on me fait le script à l'avance et que je le regarde, je le lis, j'y aurais pas cru. Même déjà rentré dans les 100, je pensais pas que j'en étais capable un jour. Évidemment, maintenant que j'y suis, j'ai toujours plus faim. Donc j'ai envie d'aller plus haut, mais c'est sûr que quand je regarde l'année et tout ce qu'on a franchi avec mon entraîneur, c'est des très belles étapes et j'espère que ça en amènera d'autres. Beaucoup de satisfaction quand même.
Ton meilleur moment de cette saison, je sais pas, ta victoire au premier tour à l'US Open en 5-7 contre Ketmanovic ou en étant mené 2-7-0, je sais pas.
Ah, il y en a beaucoup, je pense. Je sais pas si j'arriverai en discerner un parmi d'autres, mais y a déjà ma victoire sur Sinner, je pense à Lyon, qui est un sacré match où il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. J'avais la chance en plus d'avoir une petite partie de ma famille au bord du court. J'avais mon entraîneur qui était avec moi bien sûr cette semaine-là. Donc il y avait beaucoup d'émotions. J'ai un peu flanché sur la fin. J'ai réussi à me reprendre. J'ai fini le match, donc c'était cool. Évidemment, il y a eu ça. Mon match à Roland, qui a pas forcément été au top. C'est peut-être pas dans mes meilleurs souvenirs, mais jouer devant le public français à Roland, c'était incroyable. J'ai perdu. Je me suis qualifié à Wimbledon, mais j'ai perdu au premier tour 14-12 au cinquième avec une balle de match. C'était un match de folie. Alors, je l'ai perdu, mais bizarrement, j'en garde un super, super souvenir. C'était la première fois que je foulais les courts à Wimbledon. Donc, c'était vraiment génial pour moi. Après, évidemment, il y a ma victoire sur Bautista Agut aussi, qui je pense que, voilà, je mets un peu dans le même panier que Sinner. Et puis, ouais, cette victoire à l'US Open qui est assez incroyable. Je reviens de 2-7-0 pour mon deuxième ou troisième match en 5-7, au meilleur des 5-7. Je suis en pleine crampe dès le début du quatrième, donc c'était assez incroyable. Et puis l'apothéose, je pense, de la fin d'année avec la Coupe Davis, qui a été certes difficile à jouer, on va dire à huis clos, mais qui était quand même quelque chose d'extraordinaire pour moi. Et c'est peut-être d'ailleurs le meilleur moment de l'année si je dois choisir.
On va y revenir là-dessus. Ces victoires contre Bautista, contre Sinner, je crois que Sinner est 17e mondial quand tu le bats. Tu t'es surpris de pouvoir jouer, de pouvoir rivaliser et même battre des joueurs de ce niveau-là?
Oui, je pense que je me suis surpris, peut-être pas sur le moment, mais quand je me rends compte que je l'ennuie, que lui est à fond, il n'est pas là dans un jour sans, il était dedans, il était bien, et je l'ennuie, je le dérange, et je sens que j'ai de quoi aller chercher le match, quoi. Donc, je m'en rends compte. Maintenant, c'est pas facile de le faire. Je flanche un peu sur la fin, encore une fois, mais j'y vais. Et une fois battu, ouais, là, je me rends compte que je viens de battre un mec top 20. Et je me dis qu'en fait, dans la tête, je pense que ça t'ouvre pas mal de portes. Et tu te dis, j'ai été capable de battre un mec top 20. Pourquoi est-ce que je serais pas capable de rebattre un gars de ce niveau-là la prochaine fois? Ou pas battre un mec du top 50 presque à chaque fois? Enfin, donc, je pense que ça te fait péter quelques barrières dans ta tête, et ça te permet, je pense, d'avancer. Et ça a été un petit déclic, je pense, ce match pour le reste de ma saison.
T'en as fait péter quelques-unes des portes cette saison, tu le disais. Il y en a une que t'as aussi pété, c'est la porte de l'équipe de France de la Coupe Davis. Qu'est-ce que tu as ressenti quand déjà tu as appris ta sélection?
Bah, c'était assez incroyable. J'étais à Anvers. Sébastien Grosjean était sur place, était déjà sur place. Je savais pas forcément qu'il allait venir. Moi, j'ai préparé mon tournoi comme il fallait. Je sortais de 2-3 challengers où j'étais un peu fatigué après l'US Open. J'avais coupé une semaine, la première fois depuis Roland Garros, je crois. Donc, ça faisait un moment, ça m'a fait du bien. Je m'étais entraîné une semaine et j'arrive à Anvers avec plus de jus. J'étais plutôt bien dans mes pompes avec la raquette. Et je fais un premier bon match où je bats assez facilement Delbonis. Je fais un deuxième bon match où je bats l'autre Serbe. J'ai oublié son nom.
Jerry?
Non, le costaud, là, le robuste, avec son verre à une main.
Lajovic.
Je bats Lajovic en 3-7 où on se tire une bonne bourre et Sébastien vient après dans la salle récup. J'étais avec Sébastien Villette, mon entraîneur, et il me dit écoute, je compte sur toi pour la Coupe Davis. Ne t'inscris pas la semaine du Challenger de Pau, ne t'inscris pas à Pau. Il va falloir que tu sois là pour la préparation. Donc là j'ai compris. C'est vrai que j'étais un peu à mi-lieu d'imaginer que j'avais une chance. J'avais eu vraiment zéro écho. Et donc ouais, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Le cœur qui s'emballe, plein de pensées, tout ça, mais. C'était un bon moment tous les trois dans la salle de récup, et puis après tu réalises, et puis bon, tu continues, t'enchaînes, et c'est vrai que j'étais impatient de cette fin d'année avec l'équipe de France.
Vous êtes tous les trois dans la salle, et puis après Sébastien Grosjean part, tu te retrouves tout seul avec ton coach Sébastien Villette, avec qui voilà tu t'entraînes.
Ouais.
On partage des moments très forts à ce moment-là.
Ouais, évidemment, c'est en même temps tu y crois pas trop, en même temps tu arrives pas trop à visualiser ou à comprendre ce qui vient de se passer, en même temps Seb est là et il me dit mon Seb me dit attends, on a le match de demain là, on a quand même un quart de finale en 250 à préparer, je rejouais Sinner. Voilà, on était un mélange de choses, beaucoup de choses qui arrivaient, beaucoup d'informations en même temps. Pas facile à traiter. Maintenant c'est sûr que c'est vaut mieux avoir des bonnes informations comme ça à traiter que des mauvaises. Mais c'est sûr que c'était une semaine assez riche. J'ai pu rééchanger avec Sébastien, voilà, ses pensées, ses visions pour l'équipe de France. Et évidemment, je m'identifiais totalement à tout ça. Et donc, j'étais vraiment, vraiment impatient d'être un mois et demi plus tard, quoi.
Et puis, cette Coupe Davis arrive. Comment ça se passe tout de suite, la prise de marque avec tes coéquipiers? Il y a un autre jeune, c'est Hugo Gaston, un autre nouveau venu. Et puis, des joueurs très expérimentés, Richard Gasquet, Pierre Hugues, Nicolas Mahut. Comment ça se passe, tout ça?
Ça se passe très bien. Nico et Pierre Hugues étaient au Masters à Turin.
Ouais.
À Turin. Et on se prépare avec Hugo, Richard et Adrian Manarino au CNE quelques jours. Donc déjà on a de quoi, on avait un peu de temps pour échanger, commencer à prendre nos marques. Après je les connais déjà tous plus ou moins assez bien du circuit. Évidemment je m'entends très bien avec Hugo on est un petit peu plus de la même génération, donc je sais que c'est un très bon gars, un gars cool, un gars d'équipe qui est un peu du, on va dire dans le même registre que moi par rapport à l'équipe. Donc ça c'était cool. Et puis ça se passe très bien. On part pour l'Autriche, pour Innsbruck. Puis voilà, tout s'est fait naturellement. On a eu un jour là-bas. Puis Nico et Pierre nous ont rejoints. Alors ils venaient d'attraper en plus la coupe, donc c'était génial. Voilà, on a essayé d'amener notre petit brin de folie avec Hugo, un peu de jeunesse dans tout ça. Je pense qu'on les a fait bien rire. On a fait un peu l'attraction. On a eu nos bizutages comme il faut. On a bien rigolé. Je pense que l'ambiance était vraiment très bonne et c'est ce qui en est ressorti. Donc déjà pour moi c'était une première satisfaction, c'est que je pense qu'on s'est bien intégré et ils nous ont bien intégré. Donc ça c'était déjà une bonne chose.
Et puis tu t'es bien intégré aussi sur le court, puisque ça, ok, t'as perdu ton simple, mais en double ça a bien marché.
Ouais, évidemment. Alors, je joue pas la première rencontre. Voilà, choix de Seb Grosjean, et il y a aucun souci. Ce que je lui ai dit, moi, je suis au service de l'équipe, donc je serai à fond sur le bord du court, et je l'ai été. J'ai vibré avec le reste. Ma première rencontre, donc c'était génial. C'était pas la plus belle. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu, voilà, plein de choses. Mais je l'ai vécu. J'étais à fond. Et je joue du coup mon premier match en 5 face à Nori. Une fois mené 1-0, donc un peu dos au mur. Il fallait que je gagne quoi qu'il arrive. Donc là, je rentre sur le court. Il faut battre le 12e mondial pour continuer à donner à la France une chance de se qualifier. Donc forcément un petit peu tendu premier set. Nori est très dur à jouer. Je l'ai déjà joué plusieurs fois. Il arrive à m'emmener dans la filière qui est pas forcément la mienne, à me bloquer comme il faut avec sa patte de gaucher. Et je coule un peu au premier set et je me reprends. Et je me suis dit, il fallait aller un peu au sauf qui peut, quoi. J'ai sauté sur toutes les occasions, foncé au filet, j'ai essayé d'être très offensif, voilà, le privé de temps. Et même si c'est pas vraiment exactement ma filière non plus, bah, au moins cette filière-là me permettait de me donner des chances. Et au final, j'ai 2 balles de 7 au second, donc je sens que je joue quand même de mieux en mieux, je me sens de plus en plus à l'aise dans le match. Et bon, ça passe pas, il me fait 1 ou 2 coups parfaits au bon moment. Et voilà, une fois le match perdu, on était mené 2-0, c'était plus ou moins fini pour la qualification. Et Pierre-Hugues a eu la gentillesse et la sympathie de proposer à Sébastien de me laisser sa place. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Sébastien m'a demandé si j'étais partant. J'étais bouillant. Je venais de perdre, mais j'étais bouillant. Je repartais sur le court direct avec Nico, qui lui, Nico, n'avait pas l'intention du tout de perdre ce double. Donc là, j'ai bien compris tout de suite. Il m'a dit, mais là, c'est la France. On perd pas 3-0 contre les Anglais. Je lui ai dit, y a pas de souci, Nico. J'y vais pas j'y vais pas pour rigoler. Mais du coup, non, ça s'est très bien passé. On a très bien joué en double. On a battu, un mec, je crois qu'il est 3e mondial, ça les a beurrés. Et l'autre anglais, il est top 20 et on les a bien éclatés. Donc c'était hyper agréable de jouer avec Nico. C'est sûr qu'il a drivé le double. C'était facile pour moi et c'était une immense chance, beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que je me sentais de mieux en mieux au fur et à mesure de la journée et de la rencontre. Donc j'aurais aimé avoir encore d'autres matchs. Maintenant, c'est comme ça et j'espère que j'en aurai dans le futur. On verra ça.
Et peut-être un prochain à domicile, à Pau. Est-ce que tu aurais aimé jouer l'ancien format ?
Ouais, j'aurais adoré, c'est sûr. Maintenant, je ne l'ai pas connu comme joueur, donc je peux pas dire, mais juste à le voir à la télé, oui, j'aurais adoré jouer à domicile, à l'extérieur, et presque autant à l'extérieur qu'à domicile. À l'extérieur, t'as des moments assez incroyables aussi, où tu es tellement encore plus proche avec ton équipe. T'as ces supporters en face qui sont là, qui un peu comme aux États-Unis, qui sont contre toi, qui essayent vraiment de t'emmerder, de te mettre dans le dur, mais en fait ça te rend encore plus fort et ça c'est des sensations assez fantastiques quoi. Et j'aime beaucoup.
On va revenir bien sûr et dans les grandes lignes sur ton passage aux États-Unis. J'interviewe souvent les joueuses et les joueurs retraités dans Échange et qui me donnent la vision de notre sport. Comment il le ferait évoluer, etc. Et là, on parle d'une évolution, peut-être dans le mauvais sens de la Coupe Davis. Je crois qu'on s'accorde tous là-dessus. Mais, par exemple, Henri Lecomte, dans le dernier épisode, me disait qu'il trouvait que le tennis était en danger selon lui. Et je me suis dit, tiens, on pose rarement la question à ceux qui sont en train de le vivre. Toi, comment tu vis, cette situation-là? Est-ce que tu penses que notre sport doit évoluer?
Je pense qu'il y a cette problématique évidente, tout le monde en parle, qu'il n'y a qu'une centaine de joueurs dans le tennis qui gagnent confortablement leur vie. Et ça, évidemment, je trouve ça pas forcément normal, quand, surtout avec les années, le niveau de jeu moyen progresse et progresse. On le voit régulièrement, des joueurs de 100e, 250e peuvent battre des joueurs top 100 sur un mauvais jour. Ça se fait tous les jours, enfin, ça se fait toutes les semaines. À l'époque, il y avait peut-être moins de joueurs qui avaient un assez bon niveau. Maintenant, je pense que c'est vraiment le cas. Et ça mérite tellement plus d'investissement. Quand on voit à l'époque les billets d'avion, ça coûtait pas 1000 balles l'aller-retour. Maintenant, c'est tout de suite des gros billets. Donc, je trouve ça délicat. Et je pense que l'ATP, comme peut-être sûrement la WTA, j'ai moins les informations là-dessus, mais devrait être capable de manager, organiser quelque chose pour permettre à plus de joueurs de gagner leur vie ou au moins s'en sortir, pas être dans le négatif à la fin de l'année. C'est trop difficile pour le niveau que ça représente. Je veux dire, au foot, tu prenais le 150e mondial joueur de foot, je veux dire, c'est plusieurs millions qui gagnent. Là, tu parles d'un joueur de tennis, il se demande s'il va dégager un peu de positif à la fin de l'année. Donc c'est délicat. La vie en plus c'est pas facile. On est tout le temps à droite à gauche. C'est pas forcément évident. Donc ça, je pense que c'est vraiment une problématique qui devrait être soulevée. Où l'ATP devrait pouvoir se réunir et je sais pas, soit augmenter les prix en challenger sur le circuit un petit peu secondaire, soit avoir une manière de rémunérer les joueurs un peu plus sur une base fixe ou quelque chose ou sur un classement de fin d'année. Je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment faisable parce que j'ai l'impression qu'ils augmentent toujours les bénéfices pour les meilleurs joueurs, mais malheureusement il n'y a pas suffisamment de choses faites pour ceux qui sont un petit peu en dessous, qui pourtant ont un niveau de jeu qui le mérite totalement.
Je me disais ça depuis le début de l'enregistrement. Tu me disais au début de l'année si on m'avait dit que j'allais atteindre ce classement, que j'allais avoir les résultats que j'ai eus, j'aurais signé tout de suite. Je l'aurais pas cru. Et pourtant, tu dégages énormément de confiance et de sérénité. Comment tu l'expliques ?
Je l'explique pas forcément. J'ai peut-être ma je devine, peut-être, je suppose que c'est peut-être du fait de mon âge. Je suis jeune dans la tête. Ça fait que 3 ans que j'ai attaqué le circuit, mais je pense que j'ai beaucoup de fraîcheur. Mais j'ai quand même 26 ans, donc j'ai vécu quelques trucs. Ça m'a peut-être permis d'être un peu plus les pieds sur terre quand il se passe des choses, peut-être dans un sens comme dans l'autre. Les choses avancent et assez rapidement, j'arrive à m'imprégner d'où je suis ou d'où je me place. Je sais pas si tu situes, mais j'essaye de me rendre compte de ce qui se passe, me mettre là où je suis et voilà, m'imprégner du moment présent. Et voilà, je pense que mes 26 ans font que j'arrive à réaliser tout ça. Peut-être pas trop m'affoler quand on peut s'affoler ou pas trop être la tête basse ou négative quand il y a des moins bons matchs ou que ça se passe moins bien, mais je pense que d'avoir vécu pas mal d'expériences, d'être parti à 18 ans dans un autre pays, appris une autre langue, une autre culture, beaucoup de choses différentes m'ont permis de m'assagir un petit peu. Et même si ça fait 3 ans que je suis sur le circuit, j'ai peut-être quand même plus d'expérience, même si j'ai toujours cette fraîcheur d'un jeune qui vient de commencer le circuit.
On va même aller plus loin dans le passé. Moi, j'aime bien me plonger dans l'enfance de mes invités. C'était qui les idoles du jeune Arthur ?
Je me souviens étant jeune, je sais pas quel âge je devais avoir, peut-être 6, 7 ans au moment où j'attaquais le tennis. Et je rentre à l'heure du déjeuner de l'école. J'allais, je sais pas pourquoi, j'étais pas allé à la cantine. C'était le moment de Roland Garros, donc j'allais pas à la cantine. Il fallait que je rentre pour regarder Roland Garros à la télé qui commençait à 12h30 là sur France TV. Et je regarde, je crois, Juan Carlos Ferrero. Et ça a été quelque chose d'assez incroyable. Je peux même plus dire contre qui il jouait. Et je sais plus, il fait un match. Ça devait être les quarts de finale, quelque chose comme ça, un match de folie. Et bon, étant petit, je me prenais pour Juan Carlos Ferrero sur le court. J'ai commencé sur terre battue, donc c'était mon idole. Je le trouvais incroyable. Maintenant, j'ai aucun signe qui se rapproche de lui dans mon jeu à l'heure actuelle, donc il n'y a rien à voir. Mais oui, il m'a fait rêver. Après, évidemment, Roger est vite apparu. J'étais totalement fan. J'aimais beaucoup Roddick aussi. J'aimais bien. Beaucoup de joueurs, peut-être pas forcément en particulier, je suis un fan de Roger évidemment. Pas forcément fan de Nadal à la base parce que il vient titiller Roger, c'est la peste, t'as un peu de mal à l'apprécier, et puis finalement tu te rends compte que le gars est incroyable, et maintenant c'est juste un exemple aussi incroyable. J'ai pas une réponse en particulier à te donner, mais je me rappelle de ce match et j'y pense souvent de Juan Carlos Ferro à Roland. Je crois que c'est l'année où il gagne en plus, et c'était assez fantastique.
Ouais, je comprends tout à fait. En plus, il avait du style avec sa prince graphite. C'est magnifique.
Avec sa prince graphite, exactement.
Du coup, alors Roger, tu l'as un petit peu moins côtoyé, mais tu côtoies maintenant ces joueurs encore, Rafa, sur le circuit. Est-ce qu'on se dit quand même, est-ce qu'on se revoit enfant et se dire, tiens, ces joueurs-là quand même m'ont fait rêver, maintenant, je suis avec eux, quoi.
Ouais, je me le dis. C'est vrai que ça fait bizarre. On en discutait avec mon coach justement parce que lui, c'était un peu la même chose. Il s'est retrouvé dans le vestiaire à côté de Djoko où on s'est échauffé dans la salle d'échauffement. Il y avait Djoko à côté qui faisait son tapis. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau. Et nous, fans de tennis, déjà à la base, juste de voir ça, de vivre ce moment-là, ça nous fait vraiment quelque chose. Alors tu les vois à la télé toute l'année et là tu les vois en face de toi. Tu as l'impression que c'est pas la même personne, mais c'est bien lui. Voilà, ça dégage quelque chose, mais évidemment, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Ouais, de se sentir parmi eux, c'est quelque chose de fou. Maintenant, je pense que je suis une micro-miette de rien du tout à côté de ces légendes, quoi. Donc je suis quand même pas du tout dans le même bain que ce genre de joueur. Mais oui, de se sentir à côté, déjà, c'est quelque chose. Ça dégage quelque chose.
Ouais, moi, je me souviens quand je coachais Julien. Il m'est arrivé 3 fois ou 4 de croiser Roger, qui connaît bien Julien, donc qui disait bonjour et ouais. Il disait bonjour, me tapait dans la main. Je me disais à chaque fois après, bon, bah, voilà, ça c'est fait, je vais passer une bonne journée.
Ouais, très poli, Roger. J'ai eu la chance de l'échauffer à Halle, okay. Cette année sur le gazon. Alors, je venais de gagner, de me qualifier pour mon premier ATP 500. Et je suis off le lendemain et je ne veux pas trop jouer. Et mon entraîneur saute sur le practice et tombe sur Roger à ce moment-là, qui se met en looking pour un warm-up. Il y a Ljubicic à côté. Du coup, mon coach tombe dessus. Hop, ça se passe bien. Et du coup, je passe en warm-up avec lui. Et donc, le lendemain, ouais, j'ai mal dormi comme si j'avais un match, comme si j'avais un gros match. Mais, j'arrive et en fait, j'étais tellement tendu tout le warm-up. Ça a duré 30 minutes, mais je suis ressorti avec un mal au bras parce que j'avais le bras tellement tendu. Je voulais pas frapper trop fort. Je voulais pas frapper trop lentement, je voulais pas faire de faute. On était sur gazon, donc en plus la balle est pseudo lourde. Lui est très en relâchement, il frappe tous les coups. Et voilà, il était au filet. Je voulais pas frapper trop fort, je voulais pas lui faire mal. C'est juste l'idole absolue de Roger. Et moi, j'avais gratté ma petite photo de fan, donc j'étais content. Mais ouais, je suis sorti de cet échauffement. J'étais cuit pour la journée. J'avais mal au bras tellement j'étais tendu. Enfin, c'était pour l'anecdote, mais c'était assez incroyable. C'est le seul avec qui j'ai réussi à jouer pour l'instant.
Peut-être cette année, il va y en avoir d'autres. Tu viens au retour dans l'enfance. Tu viens d'une famille de tennisman. En quoi c'est important aujourd'hui dans ta vie, dans ton fonctionnement, dans ta vie de champion?
Ouais, je viens d'une famille de tennisman. Mon père a été à moins 15, à l'ancien classement. Donc, il a été dans les numéros 40, 50 français. Ma mère a été 200e WTA, assez jeune, avant de se blesser au genou assez gravement. Elle n'a pas pu continuer sa carrière. Donc, ouais, ils connaissent le tennis. Je pense qu'ils ont cette petite expérience du jeu. Et ce qui s'y passe, et depuis l'enfance, je pense que j'étais assez bien entouré à ce niveau-là. Ils m'ont bien conseillé quand il fallait. Et ça, je peux que les remercier. Maintenant, j'ai volé un peu de mes propres ailes souvent, toujours avec leur bienveillance, et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Ils m'ont toujours encouragé sans mettre aucune pression, et je pense que c'est la meilleure façon pour un jeune de s'épanouir dans le tennis, en tout cas, parce que c'est un sport quand même assez fou, avec beaucoup de problématiques. On peut essayer de tout résoudre, mais on n'y arrivera jamais. Il y en a toujours plus, toujours. Donc, je les remercie, et puis voilà, c'est famille du tennis, ça peut beaucoup aider, ça peut ne pas toujours être le cas, mais j'ai eu la chance qu'ils m'entourent bien.
Allez, on va y aller dans ton parcours. Il y a eu l'importance de ton départ aux États-Unis, tu disais à 18 ans. Déjà, pourquoi tu es parti à la base?
Pourquoi je suis parti? J'étais avec une bande de potes au lycée. On était tous les quatre, presque au même classement dans les Yvelines. On s'entraînait à la Ligue. Ça se passait très bien. Je m'éclatais à être avec mes potes toute la journée. On était dans un lycée classique. On avait quelques horaires aménagés, mais pas grand chose. On a toujours été dans une classe lambda avec des élèves lambda. Et je préférais ça. J'aimais pas. J'avais peur du CNED. J'avais peur de tout ça. Moi, c'était pas vraiment mon truc. Garder le social que t'as avec des élèves lambda qui sont au final comme toi et moi parce qu'à ce moment-là, je suis personne. Je suis rien du tout. Je joue juste mon petit tennis, pas trop mal dans mon coin. Et je suis à moins 4, moins 15. Et en fait, je suis quart de finale au championnat de France, mais je suis dans les 5 à 8e français, pas plus haut. Et donc, forcément, la Fédé me propose pas grand chose, mais en toute logique, c'est normal. Et moi, je voulais continuer à jouer, mon tennis que j'aimais bien. J'aimais beaucoup. Et puis évidemment, voilà, mes parents m'ont dit, mais les études, c'est important, tu peux pas te permettre. On sait à quel point c'est difficile, le tennis. Tu as grande chance qu'il se passe jamais rien dans ta vie avec le tennis. Tu vas faire des études. Et puis bon, la solution États-Unis est tombée. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Alors évidemment, au début, un peu réticent, un peu peur, un peu tout ça, le langage. Voilà, j'y allais un peu avec les freins, mais mes parents m'ont poussé, m'ont encouragé. Finalement, je me suis lancé. Je me suis dit qu'il fallait y aller. C'était la meilleure chose pour moi. Et voilà, juste de pouvoir continuer mon sport et faire des études aux États-Unis, c'est fantastique. Donc j'y suis allé et j'ai pas regretté une demi-seconde. J'ai tout adoré. Alors, j'ai eu quelques rebondissements sur le chemin dès le début où finalement j'étais pas éligible ma première année, donc j'ai pas pu jouer. Donc, j'ai cru arrêter le tennis pendant un an. Finalement, bon, j'ai fait avec. J'ai été un élève totalement lambda dans l'université parce que j'avais pas le droit de jouer au tennis. J'ai pas été éligible. Donc, j'ai patienté un an. Et puis après, ça s'est lancé. Et puis, tout a été génial. Et je regrette rien. Et je pense que chaque expérience m'a permis d'avancer. Et au final, si je dois changer des choses, si je dois revenir en arrière, changer des choses, je serais peut-être pas là au jour d'aujourd'hui. Donc, tout s'est passé comme ça devait se passer. Et je pense qu'il y a son propre chemin à se faire, si je dois résumer le truc.
On parle d'un Français, des Yvelines, qui atterrit à College Station en plein milieu du Texas. Je connais, puisque j'ai joué là-bas.
Tu connais bien.
Voilà. C'est quand même un sacré choc culturel. Comment tu as réussi à t'adapter? Est-ce que ça a été facile pour toi de t'adapter?
Ça n'a pas été simple. J'ai eu mon bac pendant l'été 2013, si je ne me trompe pas. Et j'avais décidé de rester un semestre en France. J'avais le choix de partir soit en septembre, soit en janvier. J'ai décidé de partir en janvier pour faire quelques tournois, justement, me permettre d'être un peu libre pour une fois, pas avoir d'école, faire des tournois, faire des futurs, prendre un peu d'expérience. J'ai fait quelques futurs pendant ce fall 2013, entre septembre et décembre. Et je me suis planté, bien planté. Je me suis demandé où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais là. J'ai été en Tunisie une fois ou deux, j'ai été en Égypte. J'ai perdu au premier tour, deuxième tour des qualifs. Je me qualifiais pas. J'étais à moins 4, moins 15, un bon petit niveau, mais c'est juste la réalité du circuit. Il fallait être plus fort que ça. J'ai fini des semaines à moins 500, moins 700. Heureusement, j'avais mes parents qui, voilà, mon père m'a aidé à ce moment-là. Mais du coup, ça m'a juste réconforté dans le fait que j'étais pas du tout prêt à aller sur le circuit. Et plus que tout, j'avais envie d'aller aux États-Unis. J'apprends fin novembre qu'en fait je suis pas éligible parce que j'ai eu mon bac S, j'ai eu 11 au bac S et en fait eux là-bas notent sur 100 et sur 100 ça me fait un 55 et tu dois le savoir, si t'es en dessous de 60 c'est un fail, c'est un F et en fait c'est considéré comme insuffisant et du coup cette 11 sur 20 et en fait là-bas ils ont aucun équivalent, ils s'en fichaient que je fasse S, que je fasse ES, peu importe le bac, c'était 11 et donc ça faisait 55, c'était pas assez bon. Je voulais rentrer dans l'école de business qui est bien reconnue là-bas dans mon école. Et du coup, il me dit non, la première année, tu vas pas pouvoir jouer. Donc t'as pas le droit de t'entraîner, t'as pas le droit de jouer les matchs. Donc j'arrive en janvier et en fait, je fais de l'école pendant six mois, mon premier spring. Et j'ai le droit de rattaquer qu'en septembre d'après. Et donc là, ouais, j'ai pleuré, j'étais pas trop sûr, je savais pas si je devais finalement partir, rester. Et je me suis dit que c'était quoi qu'il arrive la meilleure chose à faire. J'ai eu la chance que mon coach soit très, très, très cool avec moi, qu'il croit en moi déjà, dès le début, qu'il ait vu un potentiel en moi. Et il m'a dit, mais je te garde ta bourse. Tu peux pas jouer, mais je te garde ta bourse. Tu paieras pas plus, pas moins, mais je te donne ta bourse comme si t'allais jouer, même si t'allais pas jouer. J'avais plus rien à lui apporter au final. Mais il avait vraiment envie de m'avoir et il m'a offert ça et j'ai pris. Et au final, je pense que ça m'a rendu plus fort et donné encore plus envie de, voilà, d'être bon et de tout donner une fois éligible pour jouer, dès l'année d'après, quoi.
On parle de ton coach, c'est Steve Denton, puisqu'il est toujours head coach de Texas A&M, ancien 12e mondial, qui, moi aussi, il était déjà coach quand je jouais, donc j'ai joué contre lui aussi.
La montagne Steve Denton. C'était une vraie montagne.
Et donc, c'est vrai, c'est beau. Donc, ça, c'est ça qui t'a donné la force de continuer et donné de la force aussi sur place de t'adapter et tout ça. Donc, si je résume, de partir aux États-Unis, ça ne faisait pas partie de ton plan pour réussir. Tu allais là-bas pour emmagasiner de l'expérience et puis continuer à jouer au tennis. Mais ça faisait pas partie d'un plan en disant, OK, je vais là-bas, je vais m'entraîner et quand je reviens, j'attaque le circuit.
Non, c'était pas prévu. Toute mon adolescence jusqu'à 18, je me suis jamais vu en fait joueur de tennis professionnel. J'avais un pseudo rêve au fin fond de ma tête, et jamais je me suis vu professionnel. Je me sentais pas du tout capable d'aller voyager toutes les semaines. Je trouvais ça extrêmement difficile de perdre au premier tour, d'aller au fin fond de nulle part à l'autre bout du monde, perdre au premier tour pour revenir tout de suite. Enfin, je trouvais ça beaucoup trop dur. Mais par contre, j'adorais ce jeu. J'adorais le tennis. J'étais fan de jouer. J'adorais compete, comme ils disent aux États-Unis. C'est compete. Pour moi, c'était, voilà, j'adorais me challenger. J'adore le jeu. Et donc, j'avais encore envie de jouer. Et voilà, juste de profiter de cette passion. Elle me permet d'aller étudier presque gratuitement dans un autre pays. Voilà, vivre avec une équipe. J'adorais les matchs par équipe en France. Je me suis dit, je vais m'éclater là-bas. Et en fait, ça a été génial. Et ça m'a permis d'aller aux États-Unis et je me suis dit, écoute, je fais mes 4 ans, je vais pouvoir m'entraîner réellement, on va dire, avec plus intensité, proche d'un entraînement d'un pro au final. Et puis on verra au bout de 4 ans, le temps fera, voilà, je ferai le chemin dans ma tête avec le temps. Et en fait, au bout d'un an, 2 ans, ça se passe bien. J'ai la chance d'avoir Steve Denton, comme tu l'as dit, qui est un immense coach, qui connaît très très bien le tennis. Voilà, tu l'as dit, 12e, il a fait finale en simple, un grand chelem. Je crois qu'il a gagné des grands chelems en double. Donc, pour lui. Finale à l'Australienne. C'est ça, finale à l'Australienne, je crois, en simple. Et je me demande s'il a pas gagné l'US en double ou un truc comme ça avec son partenaire sud-africain. Et, donc, il touche sa bille en tennis et il me prend sous son aile, il s'occupe bien de moi. Voilà, je grandis calmement pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, il me dit, écoute, fais un peu des futurs cet été. J'aime bien comment ça évolue. Je pense que t'as de quoi titiller quelques gars. Va prendre un peu d'expérience. J'ai écouté très sagement comme je le faisais là-bas au début. Et puis je fais une finale en futur, je crois, cet été-là. Et je bats quelques gars dans les 300, 400e. Et je me dis, j'ai eu un premier prise de goût, tu vois, du circuit. Et ça m'a donné envie. En fait, mes 2 dernières années, j'ai développé, là, c'est vraiment cette envie de me lancer sur le circuit, de voir ce dont j'étais capable. Et donc, de m'entraîner comme un pro presque tous les jours pour essayer d'être le meilleur possible, prêt le jour J où je me lancerai. Et évidemment, l'université me l'a permis. J'avais des, voilà, super entraînements. J'ai pas eu du tout la méthode US de bourrin à laquelle on peut penser de temps en temps. C'était vraiment très, très bien fondé. Et ça, c'était cool. Et ça m'a permis, voilà, de bien me préparer pour le circuit.
Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de partir aux États-Unis pour lui donner encore plus envie de partir?
Je lui dirais d'écouter notre podcast, Antoine, déjà, mais je pense que ça suffira. Mais quoi lui dire de plus? Non, si t'aimes le tennis, oui. Voilà. Toi et moi, à part si t'es top 10 junior mondial, je pense, où t'as déjà les finances, t'as déjà les contrats, t'as déjà peut-être le niveau pour te lancer très vite sur le circuit. Hormis si t'es top 10, je pense que c'est la meilleure solution. Si t'es un fan de tennis, tu peux continuer ton sport, tu te donnes du temps, tu ne payes pas, tu mets pas la pression à ta famille. C'est forcément quelque chose qui sera que bénéfique. C'est quoi? Dans le pire des cas, quoi, tu ressors avec un diplôme, le tennis, tu finis, tu tournes la page, tu passes à autre chose, et puis tu bosses, tu rentres dans la vie active. Et moi, ça m'a vraiment sauvé, parce que à 18 ans, j'aurais fait 1 an sur le circuit à tout casser, en France, et puis j'aurais dû passer à autre chose, parce que financièrement, il n'y a aucun intérêt, j'aurais jamais réussi à m'épanouir, progresser forcément, parce qu'il faut s'épanouir pour progresser, je pense. Et donc, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Donc, peu importe le niveau, je pense que s'il y a un objectif plus tennis, un objectif plus scolaire, peu importe, ça, les États-Unis te permettent de faire les deux. Donc, ça, je pense que c'est leur réel plus. Ça, c'est sûr. Forcément.
Tu as dû vivre ça comme moi. Comment tu expliques la différence de perception des athlètes aux États-Unis par rapport à celle en France?
C'est une vaste question. Je pense que déjà, tout est fait pour eux. Déjà, à la base, je pense que les athlètes sont mis sur un piédestal énorme aux États-Unis. Je pense qu'ils sont adorés à la base. Ils sont rarement critiqués, même s'ils ont des mauvaises performances. Ça arrive, enfin, comme tout le monde, normal. Mais ils sont rarement critiqués. Moi, je prends l'exemple rien que des profs. en tout cas dans mon université, et je crois que c'est le cas dans toutes les universités du pays, les profs sont là et sont à fond pour les athlètes. C'est-à-dire qu'ils vont, quelquefois, moi, je recevais des mails à 2h du mat, parce qu'on était parti en déplacement pour une rencontre, je reçois un mail de la prof qui m'envoie un mail à l'américaine, quoi, avec 6 points d'exclamation et toutes les infos du cours qu'elle venait de passer, qu'elle venait de donner dans la journée. Et c'est elle qui va m'envoyer les cours à rattraper. Et j'avais un examen à rattraper. Elle me dit, mais tu viens quand tu veux, quand t'es prêt, tu prends le temps pour préparer. Enfin, tout est fait pour les athlètes, vraiment pour les aider. Et forcément, tu te sens mieux. Et ça instaure tout un climat qui est plus positif et qui aide l'athlète, je pense, à performer et à se sentir bien. Et savoir toutes ces personnes, même les élèves, tu vois, les élèves pourraient se dire, mais attends, mais nous, on est des élèves lambda, eux, c'est des athlètes, ils ont droit à tout, ils font tout comme ils veulent, c'est les rois du monde, ils payent même pas leurs études et tout ça. Et puis, en fait, ben non, les élèves, ils passent leur temps à aller à tous les matchs de l'université, ils supportent l'équipe comme des fous et ils sont à fond, tu vois. Et pourtant, il n'y a pas cette jalousie qui pourrait vraiment rentrer en ligne de mire, tu vois. Je me rappelle au lycée, bah, il y avait des profs. Nous, on était les quatre joueurs de tennis qui avaient des horaires aménagés. Bah, je me souviens au lycée, il y avait des profs. Tu sentais qu'ils étaient un peu agacés par nous, quoi. Alors, on a rien fait. On était les gentils petits garçons, mais on n'avait rien fait de spécial. Mais juste parce que, bah, on bénéficiait d'horaires un peu arrangés. Il fallait qu'on récupère des contrôles parce qu'on les avait ratés. On était pas en tournoi. Tout ça, ça les agaçait, donc tu te sentais forcément pas très bien. Tu te disais, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais en fait, on n'a rien fait de mal. C'est juste, c'est plus cette mentalité. C'est plus cette mentalité qui est un petit peu différente. Et voilà, après, voilà, ils ont aussi d'autres défauts sûrement, dont on a les qualités, mais c'est comme ça que ça se passe, je pense.
Ouais, c'est culturel. C'est culturel, le fait de... En France, c'est vrai que nos sportifs, je trouve, peu importe le sport... On a les Jeux Olympiques en 2024 à Paris et je pense que c'est un magnifique objectif un bon but, c'est de mettre le sport à sa juste place. Et je trouve que aux États-Unis, pour avoir eu la chance de le vivre, je trouve que, bah oui, c'était juste et t'étais vu comme quelqu'un qui était fort en maths, et ben il y avait aussi quelqu'un qui était fort en sport et c'était une autre qualité aussi pour l'université
d'avoir des bons athlètes. C'est exactement ça. C'est voilà, t'as une qualité, t'es fort en sport et c'est une réelle qualité. T'es peut-être pas champion du monde en maths, mais par contre t'es fort en sport et voilà et on te supporte pour ça. Et puis il y en a d'autres qui sont forts en maths, pas forts en sport, et ben t'es supporté pour ce que t'es et pas pour ce que tu n'es pas, en fait. Donc c'est... Tu l'as bien résumé. Je pense que tu l'as bien dit. Et les JO 2024 sont un événement monstrueux pour la France. Et j'espère que ça sera un réel succès pour la France, quoi. Parce que c'est sportivement, c'est juste monstrueux.
Et d'ailleurs, j'imagine que ça donne des idées, non?
Ça donne des idées. On m'a déjà posé la question et je pense que, comme à mon habitude, comme je l'ai toujours fait, je pense qu'il y a encore pas mal d'années avant 2024. Et je vais déjà essayer de me concentrer sur 2022. Il y a beaucoup de temps, ça serait exceptionnel, mais j'en suis très très loin à l'heure actuelle. Donc je vais prendre chaque chose en son temps et ça sera déjà pas mal.
Je pourrais te poser la question, bateau, quels sont tes objectifs pour la saison 2022? Mais je me dis, oui, bien sûr, monter le plus haut possible et tout ça, mais au tennis, c'est difficile de se dire, bah oui, j'ai envie de faire, je sais pas, une deuxième semaine en Grand Chelem, ou étant donné que tu le disais, si on te l'avait dit avant le début de la saison, bah, t'aurais signé tout de suite. Là, j'ai juste envie de te dire, est-ce que intérieurement, et t'es pas obligé de le dire, mais est-ce que intérieurement, on se fixe des objectifs?
En toute honnêteté, non. Malheureusement. Ça va pas être très drôle, mais non, j'ai jamais fonctionné avec des objectifs de résultats, et encore plus sur les deux dernières années avec mon coach Sébastien. J'ai appris avec le temps qu'en fait je fonctionne pas du tout comme ça, et je pense que ça me dessert même totalement de me fixer des objectifs de résultats. Et ça, Seb l'a bien compris. Et en fait, c'est des objectifs de niveau de jeu sur lesquels je me base, de travail. Et en fait, je pense que ça vient tout seul. Si tu travailles bien, si tu progresses sur, on en avait discuté auparavant ensemble d'ailleurs, sur ces cycles de travail. Si tu arrives à progresser sur ces cycles, ben en fait le cycle il va te le rendre après. Et si ton niveau de jeu progresse, en fait les victoires viennent toutes seules. j'ai envie de te dire. Alors certes, ça, pas avec facilité, il faut y aller, il faut bosser, mais en fait, t'as le bénéfice de ton travail. Et moi, j'ai vraiment compris ça. J'ai vraiment compris ça avec mon entraîneur actuel, qui me l'a bien mis en évidence. Et quand je regarde le passé, en fait, c'est toujours comme ça que j'ai réussi à fonctionner et à avancer. C'est pas en réfléchissant sur ce que j'ai à faire ou ah j'aimerais faire ci, ah j'aimerais passer 3 tours cette semaine, ah il me faut absolument cette victoire, ça me changerait mon classement, ah mais là c'est un super joueur mais il est pas trop en forme, mais enfin, toutes ces conneries, ça me sert pas, et en fait me concentrer sur le travail que j'ai à faire, ça me permet de mieux le faire, et en fait une fois en match, ça, voilà, ça me libère de toutes ces pensées négatives. Et ça me permet d'être vraiment que dans le jeu. Et c'est, au final, il n'y a que le jeu qui te fait gagner le match.
Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes ton entraîneur, Sébastien Villette. Tu es en pleine préparation hivernale avec lui en ce moment. On sent qu'il y a un lien fort entre vous. Ça fait combien de temps déjà que vous travaillez ensemble?
On finit notre deuxième année.
Seulement
notre deuxième année. Alors, je suis rentré des États-Unis. J'ai eu la chance que la Fédé m'accueille au CNE. J'ai passé une super année. Et puis j'ai, voilà, d'un commun accord, j'avais besoin d'autres choses. Ils pouvaient pas forcément me l'offrir. Et moi, j'avais, voilà, envie un peu de, voilà, d'autres choses. Et de par un de mes meilleurs amis, Manuel Guinard, qui est le Breton, voilà, la discussion s'est engagée. J'ai atterri à Rennes. Et ça a très bien, très, très bien cliqué dès le début avec Sébastien. Et pour notre premier tournoi ensemble, je gagne le Challenger de Rennes. Donc, voilà, ça a commencé très fort. Ou alors, à ce moment-là, j'avais pas fait mieux qu'un deuxième tour ou un huitième de finale en Challenger. Et là, je le gagne, presque à la maison. Donc, c'était, ouais, ça a commencé fort. Et puis, ouais, ça a tout de suite cliqué. Et pour le moment, je le souhaite, je touche du bois, que ça continue. Mais, ça clique très bien. On s'éclate. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde dans le travail. On se comprend bien. Je pense qu'il m'a très vite cerné et ça, c'est vraiment super de s'éclater. J'espère que ça durera le plus longtemps possible. Et juste prendre du plaisir, que ce soit, voilà, chacun dans notre rôle, mais on se complète bien. Et puis ça se passe très bien avec Manu aussi, qui est un gars hyper intelligent, hyper, voilà, incroyable pour ceux qui le connaissent, qui est vraiment incroyable. Et du coup, ce qui fait que tous les trois, le truc se passe à merveille et on avance. On avance tous les trois, je pense. Comme le dit Seb, on apprend toutes les semaines et je pense que c'est le cas pour tous les trois. On peut que être satisfait de ça et qu'avoir encore plus faim d'avancer.
On sent l'importance de l'entourage. Ton coach, un pote, t'as aussi une compagne. Comment ces personnes qui font partie de ton projet, qu'elles le veuillent ou non, parce qu'elles sont là au quotidien, comment tu arrives à gérer ça? T'es quand même qu'un jeune homme de 26 ans, même si on l'entend avec t'as une certaine maturité.
Ouais, c'est pas évident, c'est sûr. Une fois, on m'avait posé la question si c'était un peu comme être chef d'entreprise, d'être joueur de tennis pro. Et j'ai dit, au final, c'est pas une mauvaise image parce que, en fait, faut que t'arrives à tout organiser, à tout manager. T'as des personnes un peu sous tes ordres, mais en même temps qui te conseillent. Et tu le sais toi-même, c'est une vie tellement difficile avec tellement de déplacements, de contraintes. Alors elle est magnifique aussi. Mais toutes ces personnes autour de toi qui t'encouragent, forcément, il y a des moments où elles peuvent être déçues. Il y a des moments où elles ont envie de te voir et elles te voient pas assez. Et ça, je peux que les remercier de m'encourager toute l'année, de me pousser parce que c'est vraiment ça aussi, l'essence qui met de l'essence dans le moteur. Et c'est juste formidable d'être bien entouré, d'avoir des proches qui sont fiables et solides à côté de moi. Ça me rend forcément meilleur et ça me permet de jouer toute l'année, la conscience tranquille et état d'esprit reposé, si je peux dire.
Tu as dit que tu ne te fixais pas des objectifs, mais est-ce que tu rêves quand même de certaines choses?
Je rêverais de. Pour l'instant, c'est ce qui m'a un peu coûté à Roland Garros sur mes deux participations. Je rêverais de faire de belles choses là-bas. J'ai grandi en région parisienne, pas très loin de Roland Garros. J'étais en Val-de-Marne, puis dans les Yvelines. Donc évidemment que ce tournoi encore plus m'a marqué, encore comme tous les Français. Mais donc, ouais, j'ai toujours cette envie énorme de très bien faire. Et pour l'instant, ça m'a coûté. J'ai pas réussi à faire les matchs que j'aurais aimé faire avec, voilà, avec Seb. Mais je travaille pour, et je pense que je ferai mieux dans le futur. C'est sûr. Maintenant, ouais, c'est pareil. Bercy, je suis fan de ce tournoi. Et les tournois français, évidemment, me touchent beaucoup. J'ai goûté à la Coupe Davis. Maintenant que j'y ai goûté, c'est terrible parce que, là, je pense qu'il y a une chose depuis que c'est fini, c'est y retourner pour tout déchirer. Mais pour ça, il faut bosser toute l'année et être bon toute l'année. Donc, une raison de plus de s'accrocher, d'être motivé comme un fou tous les jours. Mais, ouais, des rêves. Ouais, voilà, un rêve. Je pense que ce serait de faire une belle chose à Roland Garros, être totalement en communion avec le public. Ça serait quelque chose d'assez fantastique pour moi.
Le gros truc en France. Et j'ai aussi noté quand même une petite mention spéciale pour Wimbledon. J'ai l'impression que tu as bien kiffé.
En fait, on m'a toujours parlé de Wimbledon comme le tournoi du tennis. Et en fait, moi, j'étais dans les qualifications cette année. Donc, j'ai pas été au temple du tennis. J'étais au lieu des qualifications. Et en me qualifiant, j'ai eu le droit d'y aller. Et j'ai fait ce match en plus de folie. J'ai fait qu'un seul match, mais alors j'ai optimisé mon temps. J'ai fait mes 5 heures de match sur le court. Et c'est vrai que c'était incroyable. C'est vrai que c'est très beau. Le public est totalement différent. Quand après j'ai fait l'US Open quelques mois plus tard, tu passes du tout au tout. Mais oui, j'ai envie d'y regoûter. Enfin, en fait, j'ai envie de goûter à tout. C'est ça qui est terrible. Plus t'avances, plus t'as envie, plus t'as faim. Et là, je suis jamais allé de ma vie en Australie. J'y vais dans quelques jours. Et donc, on dit souvent aussi que c'est peut-être le grand chelem le mieux organisé pour les joueurs. Enfin, c'est ce qui leur sort. Et ouais, je suis impatient de découvrir tout ça. Donc évidemment que c'est... Non, ouais, y a plein de tournois, en fait. Plein de tournois qui t'as envie de voir, t'as envie d'être sur le court, t'as envie de compete, de t'accrocher avec des gars, d'être dans l'effort, dans le dur. Et ouais, ça me donne très envie.
C'est génial, l'Australie. Il y a une petite ambiance de rentrée des classes. J'ai toujours ressenti ça en allant là-bas. C'est toujours assez agréable. Ouais. Tout le monde est content de se retrouver et tout. C'est assez cool.
On verra ça.
On a l'impression que ta motivation et ton ambition a évolué avec ta carrière et avec ce que tu as pu accomplir. Mais au fil des années, tu te disais, c'est pas un rêve que tu as depuis tout gosse où tu te disais, je vais être numéro un mondial, je vais être champion de tennis et tout ça. Ouais. Mais quand même, moi, je pose cette question à tous mes invités. Je leur demande d'où vient leur rage pour devenir les champions qu'ils sont et accomplir les grandes choses qu'ils accomplissent. Selon toi, elle vient d'où, cette rage que tu as en toi, même si tu dégages énormément de calme, mais je suis sûr qu'il y a un feu intérieur, non?
Ouais, je pense que j'ai un gros feu intérieur. Pour ceux qui me connaissent, j'ai un gros feu intérieur. Je suis pas le dernier à être prêt à me chauffer. Sur des matchs, sur des trucs, mais on se perd un petit peu. Je vais revenir sur ta question, mais d'où est-ce que cette rage vient? Comme tu l'as dit, je suis pas tombé dès l'enfance à me dire je veux être joueur de tennis professionnel. C'est plus le truc qui m'est tombé dessus, je pense, autour de mes 20 ans. Et en fait, j'ai cette envie de voir jusque où je suis capable d'aller, où sont mes limites, et tant que j'ai pas tout donné avec en grimpant les étapes une par une, mais j'ai pas tout donné, je me dis là j'ai plus rien, je suis pas capable d'aller plus haut. En fait, j'aurais toujours envie d'aller plus haut, j'aurais toujours envie d'aller voir ce que je peux faire de mieux, et ça Seb arrive bien à me driver là-dessus. Il est toujours capable de me challenger pour aller chercher plus loin, plus haut, plus fort, toujours plus difficile. Mais après évidemment cette rage, je pense que si elle vient de, je pense, de mes proches qui sont quand même énormément dans le tennis, et ça me fait juste tellement plaisir aussi quand je les vois heureux pour moi, et quand j'ai des beaux résultats, et juste les voir épanouis, c'est le fruit de ma victoire. Moi, j'ai gagné mon match, je suis ravi, mais en fait, c'est la victoire, elle s'est gagnée dans les, elle s'est gagnée à l'entraînement, elle s'est gagnée sur les semaines précédentes où j'en ai chié tous les jours dans l'ombre où personne n'a rien vu. Et là, en fait, la victoire, elle est presque plus facile à obtenir que les entraînements difficiles et juste de voir mes proches heureux, tout ceux que j'aime, être super, content pour moi, épanoui, tous les adjectifs qui vont avec. Ça me donne beaucoup de chaleur et de force. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me redonne l'envie d'y retourner. Et c'est un peu addictif, évidemment, mais je pense que ma rage vient de là aussi, évidemment, en plus de tout le chemin, mon chemin un peu spécifique que j'ai eu jusqu'ici, qui m'a construit et auquel j'appartiens étape par étape, entre mes années classiques lycée, mes années universitaires où je me suis identifié à une équipe, à des potes, à tout ce qui va avec. Ma découverte de la Bretagne, ce nouveau milieu où je m'y sens bien et où je m'éclate et où j'ai envie d'avancer. Et donc quelques petites choses qui me font avancer au quotidien et je pense que pour répondre à ta question, c'est là-dessus qu'il y a un ensemble de choses qui se dégagent pour me faire avancer.
Je pense que c'est bien pour finir cet échange. Une dernière question. On est en période de fin d'année. Je peux pas rater cette question. Quel est ton vœu pour cette nouvelle année qui va arriver?
Mon vœu, c'est pour l'ensemble du monde. J'aimerais que le Covid se calme un peu, nous laisse un peu tranquille. Ça serait beau dans l'ensemble. Et puis ça fera du bien au moins un peu au tennis, aux spectateurs qui pourront venir à 100% sans trop être ennuyés. Et puis personnellement, j'espère avoir une saison épanouie avec encore de beaux matchs, de belles découvertes, des beaux tournois à découvrir, des défaites dures à avaler mais qui feront avancer et puis des belles victoires si possible avec un peu d'équipe sur les bords, ça serait génial.
On te le souhaite en tout cas et c'est en tant qu'observateur, un des nombreux observateurs du tennis, c'est un bonheur de te voir évoluer et en tout cas on sera derrière toi. Voilà.
C'est gentil, merci Antoine et merci de ton invitation, c'était cool.
Merci beaucoup Arthur, je te laisse aller te reposer, tu dois t'entraîner en vue de ce premier Open d'Australie et on se dit à très bientôt, merci beaucoup Arthur.
À très bientôt Antoine, salut, merci.
Merci à Arthur pour sa disponibilité durant sa période d'entraînement et ses moments de partage. Merci à Enguerrand aussi à la réalisation au Studio Laude. C'était le dernier épisode de l'année et je vous remercie vraiment pour tout. Vous êtes plus de 15 000 à écouter chaque épisode et je n'en reviens pas. Continuez à m'écrire, me partager vos remarques. Moi, je vous prépare des surprises à la rentrée, de nouveaux formats. Passez de très belles fêtes. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année 2022. À bientôt pour un prochain épisode d'échange et d'ici là, prenez soin de vous.